humanisme. Islam, c'est le thème de réflexion de Religion du Monde ce dimanche, avec un invité qui a consacré sa vie à ce sujet, Mohamed Harkoun, auteur d'un nouveau livre publié chez Vrin intitulé Humanisme et Islam, combat et proposition. Mohamed Harkoun, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre présence dans ce studio. Quelques mots de présentation sur vous, même si bon nombre de nos auditeurs du Maghreb, notamment, vous connaissent bien. Vous êtes né en 1928 en Kabylie, vous êtes historien et philosophe, vous êtes professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la pensée humaniste dans le monde arabo-musulman et vous donnez des conférences à travers le monde en français, en anglais, en arabe et même en berbère. Alors, une première question sur la définition du mot humanisme arabe, humanisme islamique, qui intéresse des périodes très précises, le Xe siècle notamment, et la Narda, dit l'âge libéral, qui concerne la période de 1800 à 1940. Alors, en quoi cet humanisme se distingue-t-il des autres humanismes, Mohamed Harkoun ?
Oui, alors, pour aller vite, humanisme arabe veut dire humanisme qui s'exprime en langue arabe, parce que le seul moment historique où il y a eu effectivement une pratique culturelle humaniste, une application de l'attitude humaniste, c'était au 9e, 10e siècle, c'est-à-dire dans un lointain Moyen-Âge. On ne peut pas le qualifier d'islamique, mais c'était un État musulman, un régime musulman avec la loi musulmane, je préfère dire humanisme d'expression arabe en contexte islamique, aussi bien pour le Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Parce que le contexte islamique, ils sont extrêmement nombreux. Maintenant, nous avons un contexte islamique dans les pays européens eux-mêmes, dans tous les pays européens. Et donc j'inclus ces musulmans qui vivent dans les pays européens, avec les problèmes qui se posent pour eux et avec leur capacité ou incapacité à faire vivre une pensée humaniste et une culture humaniste aujourd'hui.
Alors, Mohamed Harkoun, revenons sur ce Xe siècle. Quelles sont les conditions d'épanouissement d'une pensée humaniste, et notamment en milieu musulman ?
En milieu musulman, eh bien, c'est toute l'histoire de la pensée, justement, d'expression arabe, car il faut dire que du 7e, 8e siècle jusqu'à, disons, 13e siècle, la pensée dans tout l'espace méditerranéen, dont la majeure partie est sous l'autorité musulmane, puisque nous avons tout le Maghreb, toute l'Andalousie, la Sicile, tout ce monde-là, une grande partie de la Méditerranée, faisait partie de l'empire, si je puis m'exprimer ainsi, islamique. Donc dans tous ces pays-là, il y avait une circulation de plusieurs cultures. Et c'est une des définitions de l'humanisme que de s'ouvrir précisément, d'accueillir sans réserve toutes les cultures. Rappelons-nous qu'en Europe, l'humanisme, c'est la redécouverte de la pensée grecque et de la pensée latine et de sa continuité. Et à partir de là, on a construit et on a continué à développer cette attitude humaniste depuis le 14e, 15e siècle. C'est parti d'Italie, ensuite ça s'est répandu dans toute l'Europe, j'allais dire jusqu'à nos jours. Précisément, la question de l'humanisme se pose après 1945.
On y reviendra, oui.
Et oui, ça c'était. Aujourd'hui, on ne parle plus d'humanisme. Même à l'école, on en parle peu, si l'on n'en parle jamais. Dans certaines classes, ça dépend des professeurs. Donc la question humaniste est perdue aussi en Europe. Mais pour l'islam, elle est perdue depuis le XIIe siècle.
Alors Mohamed Harkoun, pourquoi y a-t-il eu une régression puis une disparition ?
Ça,
pourquoi ?
Je ne peux pas m'engager dans parce que c'est trop complexe.
Oui. Parce que mais c'est économique, que... c'est culturel, c'est cette régression
par
de l'humanisme.
Exemple, je vous donne un des facteurs de cette disparition, c'est que l'humanisme vit avec la philosophie grecque. le grand courant philosophique grec, la philosophie dans l'Antiquité et au Moyen Âge, ça n'est pas seulement la spéculation métaphysique, philosophique, philosophie politique, etc. C'est aussi la connaissance scientifique, le questionnement scientifique. C'est ça l'œuvre d'Aristote et le corpus d'Aristote, c'est l'interrogation scientifique et l'autonomie de la raison pour poser des questions. Ça aussi, c'est une des définitions fondamentales de l'humanisme. Or, cette philosophie et le rôle qu'elle a joué et qu'elle a exprimé en langue arabe du 8e au, disons, la fin du 12e, début du 13e, je dis 12e parce que le grand philosophe Averroès andalou est mort en 1198, fin du 12e siècle. Et Averroès va être exporté en Europe latine et chrétienne en langue arabe et on va le traduire en latin. Voilà une donnée très importante pour vous dire combien la pensée d'expression arabe, comme je l'appelle, était répandue dans le monde méditerranéen. Elle va venir en Europe justement à partir du 11e, 12e siècle. C'est une carte du monde intellectuel de la Méditerranée qu'aujourd'hui on perd de vue.
Alors, 12e siècle, recul de l'humanisme en milieu musulman.
Et on ne le retrouve jamais.
Et on le retrouve jamais, un petit peu quand même, au 19e siècle.
Vous avez raison.
Hein, avec la Narda,
vous
c'est
avez
ça.
Raison, je l'ai dit, parce qu'il y a cette fameuse Narda, en français, on l'a appelé aussi la Renaissance. C'est la Renaissance de quelque chose qu'on a oublié. Comme on a oublié la Grèce et Rome, ici, on a oublié ce qu'on appelle la pensée islamique classique. Classique, comme je l'ai dit, du 7e jusqu'au 13e. C'est ça la période exceptionnelle de cette pensée et qui a donné son expansion à la langue arabe.
Alors, 1945, vous évoquiez cette date tout à l'heure, c'est une date charnière.
Absolument, absolument. Et je fais remarquer que notre connaissance historique de ce qui s'est passé du côté du sud et de l'est de la Méditerranée et du côté européen du Nord, on ne le connaît pas, on ne l'enseigne pas, c'est un trou noir dans la mémoire historique. Mais ça n'est pas du tout un trou noir dans ce qu'on appelle la mémoire collective. Or, il y a plusieurs mémoires collectives qui sont en train de s'affronter durement dans la violence, dans la guerre, depuis 1945.
C'est le début de ce que vous appelez le bricolage idéologique.
Le bricolage idéologique des mouvements nationalistes pour reconquérir ou conquérir pour la première fois leur souveraineté politique. C'est le problème israélo-palestinien qui va s'introduire et nous y sommes toujours. C'est le terrorisme international et les deux guerres du Golfe qui font des ravages et ça n'est pas terminé. Non. Et c'est donc toute cette immense violence qui va programmer les États, programme politiquement cette violence dans l'espace méditerranéen et même maintenant dans l'espace mondial. Et dans ces circonstances, évidemment, il y a lieu de réfléchir autrement et de voir que la question humaniste n'est pas et ne peut être à l'ordre du jour.
Quelques mots encore, Mohamed Harkoun, sur ce bricolage idéologique qui mêle la religion avec les idéaux du siècle des Lumières, avec les combats révolutionnaires. Ça aboutit à quoi? Un fatras?
C'est un fatras, oui, du point de vue intellectuel. Le champ intellectuel est d'une pauvreté inquiétante pour tous ceux qui utilisent le persan ou le turc à un moindre degré, mais quand même. Et toutes les langues, justement, parlées par les pays musulmans, elles sont tout à fait en retrait du vocabulaire scientifique des sciences de l'homme et de la société. Il y a des universités, mais les gens ne sont pas suffisamment formés. Ils n'ont pas accès aux livres pour les procurer, les acheter, etc. Les bibliothèques sont vides. Voilà. Un vide considérable.
Là, vous parlez effectivement de la pauvreté, de la situation actuelle.
Et regardez même en France ce qui se passe pour la recherche scientifique.
Alors, Mohamed Harkoun, revenons sur l'humanisme islamique. Évoquons également le 11 septembre. Vous avez écrit, il y a quelques années, sur ce thème, de Manhattan à Bagdad.
Oui.
C'était donc peu de temps avant l'intervention américaine.
Oui.
Pour vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cet événement que vous appeliez à l'époque un avènement ?
Non, j'ai dit exactement que cet événement éminemment tragique, cet événement-là, j'ai dit, aurait pu être transformé en avènement d'un autre discours politique de la part de l'Occident tout entier, c'est-à-dire les États-Unis, bien sûr, et l'Europe, l'Union européenne. C'est parce qu'il s'agit de reprendre précisément les fils de l'histoire qui ont conduit, aussi bien de l'intérieur des sociétés musulmanes, ce que j'appelle les partis-États, qui se sont formés après les indépendances, que du côté de l'Occident, par exemple les anciennes métropoles, qui ont des relations de toutes sortes, et même organiques avec l'immigration, par exemple, dans tous les pays européens sont quand même impliqués dans la nécessité de renouer les fils de cette histoire qui ont conduit les peuples à produire de leur intérieur le mouvement terroriste, qui ne vise pas seulement l'Occident, puisqu'il vise aussi à l'intérieur. L'Algérie a souffert pendant 10 ans de cette histoire-là. Mais personne ne pense à ça. On n'explique rien au public.
Alors,
l'histoire n'est pas à l'ordre. L'histoire comme connaissance, pour former une conscience historique critique et faire taire les réactions émotionnel de tout le monde chaque fois qu'on évoque justement l'Occident et l'islam aujourd'hui. Ce sont deux pôles idéologiques qui s'excluent fondamentalement, radicalement, par une violence également radicale.
Alors, votre livre, Mohamed Harkoun, Humanisme et Islam, comporte un sous-titre « Combat et proposition ». Donc, votre combat, c'est de désincarcérer en quelque sorte les sociétés.
Les propositions que j'ai présenté dans divers endroits, à la Commission européenne, au Conseil de l'Europe, dans tous les pays européens où je vais faire des conférences.
Oui, alors vos propositions.
Une d'elles. La négociation d'un tronc éducatif commun au sein des rencontres euro-arabes de Barcelone. Ce sont des rencontres entre États, les États du monde méditerranéen, tous négocier un tronc commun éducatif. Parce que le trou noir de l'histoire, même contemporaine, est considérable des deux côtés. Donc c'était un intérêt politique commun. Lorsque nous avons eu des problèmes que nous avons avec les incendies, etc., je n'ai pas vu évoquer ce problème crucial de l'éducation.
Vous voulez dire lors de la crise des banlieues, c'est ça ?
Oui. Mm. Bien sûr, on a bricolé quelque chose, mais c'est du bricolage. Ce n'est pas un travail de fond. Il faut une diplomatie préventive, je l'appellerai, qui impliquera évidemment l'écriture de manuels d'histoire, exactement comme on a essayé de le faire entre l'Allemagne et la France dans les années, début des années 90, et d'ailleurs la réflexion continue. Et on a évoqué aussi récemment l'enseignement de bienfaits du colonialisme, etc. On l'a exprimé comme ça, nous savons. Alors, tollé, mais un tollé émotionnel et idéologique.
Ça vous choque ?
Ça ne me choque pas du tout, moi je veux qu'il y ait une recherche historique. Mais je ne dirai pas aux historiens, par le Parlement, comment il faut faire la recherche. Il faut soutenir la recherche, inciter les chercheurs à faire cela et demander justement la composition de manuels qui seraient mis dans les mains, parce qu'agréés par tous, en France, en Italie, partout, au sein de l'Union européenne et au sein, bien sûr, de tous les peuples et les sociétés du sud et de l'est de la Méditerranée, c'est-à-dire y compris les Iraniens, bien sûr.
Une question, Mohamed Harkoun, que reste-t-il aujourd'hui de l'humanisme en islam? Est-ce que finalement c'est le musulman de la rue qui détient cet humanisme?
Non.
Ou c'est l'intellectuel dans son coin, un peu caché, si je puis dire?
La première réponse à cela, c'est qu'elle est négative du côté européen. L'Europe a oublié ou ne ressent plus le besoin de parler d'humanisme. On parle d'humanitaire. Et l'humanitaire est le produit des chocs des idéologies, c'est-à-dire des ignorances. Je vais soulager les gens qui ont été massacrés, même par leur gouvernement, qui crée des guerres civiles, etc. Je vais aller les soulager. Bon, il faut le faire, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais la pensée humaniste nous oblige à agir avant que ne se produisent des tragédies pareilles qui nécessitent effectivement des interventions humanitaires. Alors, je confronte, vous voyez, humanisme et humanitaire.
Désincarcérer les sociétés musulmanes de l'emprise dogmatique. Pour vous, quels sont actuellement les espoirs, les signes d'espoir?
Les signes d'espoir, c'est un changement d'attitude du côté de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la responsabilité de l'Union européenne. De même qu'il faut nous entraider et faire une politique commune pour la santé mondiale, de même nous devons penser à la santé mentale mondiale, et en particulier celle de nos voisins, qui communiquent entre eux et dont on ne peut pas arrêter la communication, pour répondre à leurs attentes et leur donner les moyens, les outils de pensée nécessaires, et les références existent, et la fibre humaniste, si vous voulez, chaque homme a une fibre humaniste. Mais il faut lui donner les moyens de l'exprimer et de la vivre.
Dernière question, Mohamed Harkoun. Êtes-vous un intellectuel subversif?
Absolument. Je le suis depuis mon âge presque d'adolescent. Et je vais publier un livre en anglais qui s'appelle « Islam, réformer ou subvertir ». Ou subvertir. Subvertir, bien sûr, intellectuellement. Et j'oppose la subversion intellectuelle, la subversion par la pensée, à la subversion par la violence terroriste.
L'intellectuel, de toute façon, en milieu arabo-musulman, on va dire, de toute façon, est subversif aujourd'hui.
Oui, absolument.
Il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix. Quand vous n'avez pas d'horizon de sens, d'horizon d'espérance, sans lesquels vous ne pouvez pas entreprendre une action adéquate, lié à ce sens que vous donnez à votre action et à cette espérance qui vous galvanise et soulève à la fois votre indignation et votre volonté de produire une autre histoire. Quand vous êtes dans cette situation, vous ne pouvez que subvertir. Mais il y a des gens qui subvertissent, c'est une forme de subversion, mais évidemment catastrophique pour tout le monde et sans horizon de sens justement. C'est ça le principal. Le terrorisme exprime quelque chose de profond. De profond quant à l'indignation accumulée depuis longtemps. Mais il n'a pas les outils nécessaires.
Quels sont les outils de l'intellectuel humaniste?
C'est les outils de la connaissance. Les musulmans ignorent l'histoire de la pensée islamique. Ils sont profondément ignorants de ce qu'est la pensée islamique. Il ne peut pas vous citer une grande autorité qu'il pourrait lire dans le texte.
Donc vous appelez, pour conclure, les musulmans à la lecture?
Non, je les appelle à plus que ça. Non, c'est une subversion, effectivement, des institutions politiques, du regard porté sur les sociétés par les politiques, une subversion des conditions qui retardent la formation et l'émergence des sociétés civiles, et non seulement les retarde, mais elle leur impose une politique régressive en termes justement de connaissances scientifiques et en termes de vie culturelle ouverte aux problèmes d'aujourd'hui.
Je vous remercie, Mohamed Harkoun. Je rappelle le titre de votre livre, Humanisme et Islam, combat et propositions, édité chez Vrin. Fin de Religion du Monde, présenté par Geneviève Delru et réalisé par Patricia Lecomte et Antonin Gouzère. À dimanche prochain et bonne semaine à tous.